soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Ravi de vous retrouver pour parler du sport sur VOA Afrique. Bonsoir, Élisée Mouquati devant ce micro et pour m'accompagner comme d'habitude, Lawal Tim Kosovo. Bonsoir Lawal.
Bonsoir Élisée.
C'est Idriss Diallo qui est sorti vainqueur des élections à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. Didier Drogba battu au premier tour. Nos consultants sont déjà en ligne pour leur analyse et commentaires. Amine Birouk est en direct de Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Valdo Simon Yamba est du côté de Kinshasa en RDC. Valdo, bonsoir.
Élisée, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
De Libreville au Gabon, nous avons Jules Valentin Ngoué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous.
Et puis à Dakar au Sénégal, Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
On parlera aussi des interclubs de la CAF avec les qualifiés pour le dernier carré d'As. Sporama, c'est parti. Le football ivoirien a un nouveau président. Il s'agit de Yacine Idriss Diallo qui a été élu à Yamoussoukro à l'issue de l'Assemblée Générale Élective. Il a devancé Sori Diabaté et Didier Drogba pour succéder à Augustin Sidi Diallo après 4 années et demie de crise. Une victoire au second tour avec 63 voix contre 61 pour Sori Diabaté, l'ancien vice-président de la fédération. Dès sa victoire, il a appelé à l'union du monde du football ivoirien divisé depuis plusieurs années.
Le rassemblement est la base de notre vision. Rassembler pour développer, c'est pas uniquement un slogan. Je l'ai dit, notre pays a une devise: union, discipline, travail. Parce que dans la division, on ne peut rien bâtir.
Une nouvelle ère souffle donc sur le foot ivoirien. Idriss Diallo, qui est le vice-président du club de Djekanou Afad, a été ancien vice-président de la fédération sous Jacques Anouma, donc un homme du système. Et pourtant, à Medine Sy, il était aperçu comme le candidat le moins clivant des trois.
Élisée Idriss Diallo, c'est une expérience de 40 ans dans le football ivoirien. C'est un très grand dirigeant car il a été à la tête de la grande équipe de l'ASEC d'Abidjan, l'un des plus grands clubs de ce pays. D'ailleurs, l'ASEC d'Abidjan a remporté à 27 reprises le championnat de la Côte d'Ivoire et l'ASEC a aussi gagné à 21 reprises la Coupe nationale. Donc, l'ancien vice-président de la fédération chargé de la commission marketing sous la présidence de Jacques Ornement aura tout fois la lourde tâche de redorer le blason du football ivoirien terni par cette grave crise que la fédération vient de traverser. Ça c'est l'idée que le nouveau patron du football ivoirien aura déjà un rendez-vous majeur à son agenda car dans moins d'une année il acquerra la Coupe d'Afrique des Nations. Élisée.
Une enquête d'intégrité menée par la FIFA doit valider définitivement cette victoire d'Idriss Diallo. Amine, c'est la dernière étape d'une élection qui a fait couler beaucoup d'encre.
Ce qui me tracasse, c'est cette enquête d'intégrité qui a été imposée par la FIFA, la Fédération Ivoirienne de Football. C'est un préalable qui n'a jamais existé, c'est un précédent. C'est l'impression aussi que la FIFA n'était pas super partait, c'est-à-dire au-dessus de toutes les parties. On a l'impression que son candidat était Didier Drogba et que de cette façon-là, ayant la certitude qu'il ne serait peut-être pas élu, elle veut pousser le bouchon un peu trop loin. En tout cas, c'est un nouveau président pour la Fédération ivoirienne de football, c'est un candidat de l'establishment du football ivoirien et c'est quelqu'un qui doit apporter une vision nouvelle, un sang nouveau, un rythme différent pour que le football ivoirien puisse retrouver son lustre d'antan. Ça passe déjà par redonner beaucoup plus d'importance au championnat, travailler sur la formation, retrouver des sélections compétitives au niveau des catégories de jeunes, des clubs au niveau dans les compétitions continentales. Autant dire que c'est un véritable challenge que va devoir mener le nouveau président élu de la Fédération ivoirienne de football et qui ne sera surtout pas, et qui ne sera pas Didier Drogba.
Alors, 4 mois après Samuel Eto'o, de nombreux fans du football africain s'attendaient à la victoire de Didier Drogba. Mais l'ancien capitaine des éléphants a été éjecté que dès le premier tour, après avoir obtenu seulement 21 voix. Valdo, peut-on parler de camoufler pour lui?
Effectivement, Élisée, sur cette table-là, Didier Drogba n'avait pas sa place. Hein, il ne pouvait nullement être élu.
D'ailleurs, si ces élections ont été retardées pour finalement se tenir en 2022, c'est notamment à cause des Drogba qui étaient non partants, faute de soutien. Mais bon, il s'est invité à la course, croyant que les choses allaient bien lui sourire. Mais hélas, les électeurs de la Fédération ivoirienne de football sont restés égaux à eux-mêmes parce qu'ils ne voulaient pas de lui, malgré les forcings de la FIFA. Drogba était donc tout sauf les candidats des électeurs, malgré une campagne bling-bling assortie du populisme avec un accompagnement médiatique de haute gamme. Cette élection ne devait pas être considérée comme un échec pour Didier, mais plutôt, il doit mettre à profit ses résultats pour revenir très fort d'ici la fin de ses mandats si réellement il tient à apporter sa touche dans la gestion et le fonctionnement du football ivoirien.
La chance de victoire du Drogba est restée minime puisqu'il n'a pu convaincre les clubs ni rallier ses anciens coéquipiers. Mais Lawal, l'homme apprendra forcément de cet échec.
Oui, Élisée, c'est un échec pour Drogba, c'est un échec pour les footballeurs, parce que s'il n'a pas réussi à rallier ses anciens coéquipiers à sa cause, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et contrairement à Samuel Eto'o, on a constaté que Samuel avait la cote auprès de ses anciens coéquipiers, avait la cote auprès de ses anciens adversaires. Il faut le dire, Roger Mila et Joseph Antoine Bell, tous ont rallié le camp de Samuel Eto'o. Et
même la politique était derrière lui aussi.
Oui. Et au-delà, Didier Drogba n'a pas réussi à fédérer les énergies autour de sa candidature et la polémique qu'il y a eu par rapport à sa candidature a forcément contribué pour beaucoup dans son échec. Mais il va forcément apprendre de cet échec-là et se relancer certainement après Élisée.
Et justement, la légende a d'ailleurs félicité le nouveau président et a demandé de l'accompagner dans sa tâche. On écoute Didier Drogba.
Je tiens à féliciter Élisée Diallo, qui est le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Vous avez assisté à cette élection. Je lui souhaite un excellent mandat. Souhaitons-lui bonne chance et accompagnons-le dans sa tâche.
Alors, Jules Valentin Ngwe, c'est la fin de longs mois de crise au sein de la Fédération ivoirienne de football.
Oui, Élisée. La tenue et l'aboutissement de ce vote mettent juridiquement un terme officiel à un contentieux qui perdure depuis 5 ans, tout en conférant au bureau élu une légitimité incontestable. Mais un regard plus appuyé rend quand même dubitatif, notamment par rapport au casting et au podium présenté. Nous savons qu'en Afrique, tout choix à un poste important passe dans l'opinion par l'analyse en premier chef du contenu sociologique de l'événement. Et là, rien n'est oublié. Ni l'appartenance ethnique, ni le rapport avec des systèmes ou le pouvoir. Or ici, la revue du classement final de cette élection nous apprend que c'est un Diallo, Yassine, qui remplace un autre Diallo, Augustin celui-là, alors que le candidat Didier Drogba, qui semblait présenter un meilleur profil par sa connaissance du haut niveau, son carnet d'adresses étoffé et en termes de caution, une épaisseur financière suffisamment rassurante, se voit aussi largué au troisième rang, derrière un dénommé Sori Diabaté. Alors il disait, fin officielle de crise et retour total à la sérénité, seule la réussite concrète du nouveau bureau élu pourra contribuer à remplir ce vœu pour le plus grand bien de la Côte d'Ivoire, cette locomotive majeure du football continental.
A préciser que l'enquête d'intégrité qui devrait être dévoilée après l'élection aurait finalement été présentée au candidat la veille du scrutin, a annoncé Idriss Diallo. Donc il pouvait assurer la passation dans les prochains jours. Sa prochaine mission est de bien gérer l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que le pays organise. On monte sur les gazons à présent avec les interclubs de la CAF. On connaît les qualifiés pour les demi-finales et on reste avec vous, Jules. En Ligue des Champions, le Petro Atlético de Luanda sort à la surprise générale le Mamelodi Sundowns. Un but partout sur le terrain des Sud-Africains après sa victoire de 2-1 à l'aller. Les Angolais sont donc en demi-finale du Coupe des clubs après 21 ans.
Élisée, la performance de Petro Atlético de Luanda face au Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud en déplacement, n'est qu'une demi-surprise au vu du rapport de force et du scénario du match aller à Luanda. Le club angolais, qui s'est donné les moyens de défier les plus grands et surtout su augmenter son capital confiance au fil des rencontres précédentes, avait marqué un grand coup en gagnant le match aller à domicile, ce qui lui donnait l'avantage de faire plus clairement son choix tactique. Son aptitude à casser les lignes d'un adversaire évoluant trop dans la latéralité et par là même s'exposant dès la moindre perte de balle à des passes assassines dans le dos de la défense, a permis aux représentants angolais de gagner en confiance et d'imposer ses qualités athlétiques avec ce jeu en profondeur qui fait sa force. Dans cette parfaite opposition de style, les pétroliers de Luanda ont misé sur la panoplie des recettes propres aux équipes venues en outsider. La victoire individuelle dans les duels, le mental, la solidarité. En fin de compte, Petro Atlético souffre le scalp d'un prétendant sérieux au titre et s'octroie l'honneur d'être le seul représentant subsaharien à affronter les ogres d'Afrique du Nord dans le dernier carré d'as. Affaire à suivre.
L'entente de ces titres crée aussi la surprise en allant battre 1-0 l'Espérance de Tunis sur sa pelouse, d'où la déception de l'entraîneur tunisien Radi Djaidi.
Je suis déçu comme tous les joueurs au vestiaire. C'est dur de digérer une telle performance à un moment donné. On a raté la qualification, je pense, le premier match où on a raté beaucoup d'occasions, on n'a pas pu concrétiser. Le plus important pour nous, pour le moment, c'est préserver et essayer de se concentrer sur l'avenir. L'avenir est prometteur pour plusieurs joueurs dans ce groupe. On a aussi d'autres échéances, le championnat et le coupe, donc ce serait un objectif pour tout le monde. Je suis très positif par rapport à ce groupe, par rapport à ces individus. On peut continuer à travailler, c'est le plus important.
De son côté, Al Ahly du Caire sera bien dans le dernier carré après avoir écarté le Raja de Casablanca. 2-1 à l'aller et 1-1 au retour. Amine, le Maroc n'aura finalement qu'un seul club en demi-finale. Le Wydad s'est difficilement qualifié aux dépens des Algériens du Sierra Belouizdad.
Le Wydad a joué à la roulette russe, le Wydad a souffert, son public a souffert et le Wydad, au bout du compte, a tenu le 0-0. Se qualifiant pour la quatrième année consécutive pour la Ligue des Champions au terme d'un match où pendant les 45 premières minutes, les Rouges et Blancs ont complètement refusé de jouer, laissant leur adversaire se créer les meilleures occasions. En deuxième période, il y a eu un léger mieux, quelques tentatives timides de la part des Ouidadi, et surtout un dernier frisson devant les buts gardés par Tagnaouti avec une tête sur le poteau de Alibi côté algérien. Du côté du Raja, on a l'impression que l'équipe était handicapée d'entrée face à Al Ahly, tout d'abord parce qu'elle a perdu ses meilleurs éléments à l'intersaison, et ensuite, l'impression aussi qu'elle a manqué d'audace et de courage pendant une bonne partie de cette double confrontation. Première mi-temps, elle a marqué grâce à N'Goma, elle était qualifiée à un moment du match, et puis elle a laissé le terrain et le ballon à l'équipe de l'Ahly en fin de première période, ce qui a été, je dirais, suicidaire, puisque l'Ahly a pu égaliser. En deuxième période, le Raja a voulu, mais n'a jamais pu franchir le bastion défensif imposé par l'équipe de l'Ahly. Du coup, on retrouve des demi-finales assez inédites avec Petro Atlético Wydad de Casablanca et Ahly Sétif, et on verra dans quelle mesure le football marocain pourra avoir son représentant en finale. Le Wydad avait échoué la saison dernière face à Kaiser Chiefs. Il a une revanche à prendre pour pouvoir atteindre une nouvelle finale après celle de 2017 et 2019.
Merci Amine. Le programme des demi-finales de cette Ligue des Champions. Wydad de Casablanca contre Petro de Luanda et Al Ahly du Caire face à l'Entente de Sétif. L'unique représentant marocain en Coupe de la CAF, la Renaissance de Berkane, s'est aussi qualifiée pour les demi-finales après avoir battu in extremis 1-0 les Égyptiens d'Al-Masri, vainqueur 2-1 à l'aller. Amine, la RSB, pas trop convaincante, s'est contentée du minimum, surmontant du coup son retard à l'aller.
Je dirais pourtant le contraire, Élysée. La RSB a proposé son match le plus convaincant de la saison sur le plan africain, puisque d'entrée, elle a pris à la gorge les Égyptiens d'Al-Masri à la recherche du but qui permettrait de remonter l'handicap du match aller. Ça s'est produit sur un pénalty transformé par le Fahli à la 7e minute, un pénalty très justifié. Et par la suite, Berkane, notamment en première mi-temps, s'est procuré d'innombrables occasions de doubler la mise. Une tête sur le poteau de Sharq El-Bahri, quelques buts immanquables. En deuxième mi-temps,
même pression pendant le premier quart d'heure et puis la fraîcheur physique est allée en diminuant et du coup les Égyptiens ont pu monopoliser le ballon et chercher à faire peur à une équipe de Berkane qui a souffert pendant les 10 dernières minutes de la rencontre, demandant quasiment à l'arbitre de siffler la fin de la partie. Berkane se qualifie pour les demi-finales, elle retrouvera sur son chemin le TP Mazembe qui a réussi à s'extirper du piège des Égyptiens de Pyramids. Une confrontation entre deux anciens vainqueurs de la compétition, une finale avant la lettre.
Florent Ibengué, en conférence de presse, satisfait de cette qualification, ne prend que ce qui est positif dans le contenu.
La motivation était simple, c'est d'aller en demi-finale. Donc toute la semaine, je crois que je l'ai dit hier, on a travaillé la façon de jouer cette équipe. On l'a très bien fait en première mi-temps. Quand vous ne marquez pas, vous n'êtes pas à l'abri de prendre un but et souvent vous êtes entre deux chaises. Donc à la fin, vous ne savez plus si vous devez attaquer ou défendre. Je crois qu'on commence à voir une autre équipe de la RFB qui est plus compétitive. C'est vrai qu'on a tremblé à la fin, mais il n'y a aucun tir de l'adversaire. Donc ça, c'était important. On avait insisté là-dessus. Donc aujourd'hui, on est content, mais on a encore beaucoup, beaucoup de travail pour la suite.
Le technicien congolais retrouvera donc en demi-finale le tout-puissant Mazembe, vainqueur 2-0 de l'autre club égyptien Pyramide après le nul 0-0 du match aller. Le club de Lubumbashi retrouve ainsi le dernier carré d'une Coupe d'Afrique trois ans après. L'entraîneur Franck Dumas, ravi de l'avoir réalisé, félicite ses joueurs qui se sont bien comportés, surtout en seconde mi-temps.
On savait qu'à la mi-temps, mon discours c'était il leur reste 45 minutes pour tout donner. Donc ça va y avoir plus de joueurs devant, plus de mouvements, plus de duels, à nous d'être intelligents. Je n'avais pas prévu qu'ils passent à trois derrière, donc on a dû s'adapter. Mais il y a une chose, et ça s'est passé aussi au match aller. On était bien en place. On n'a pas pris de but au match aller, on n'a pas pris de but au match retour. Donc on est en place avec nos qualités et nos défauts.
Valdo, les corbeaux à deux visages différents ont montré une belle copie en première période.
Il les fallait, Élisée, question de ne pas se retrouver sous pression en cas de difficulté de trouver les chemins défilés. L'inverse serait une expérience à ne pas tenter. Qui sait, peut-être que les Égyptiens se mettraient en confiance et ils allaient faire mal aux corbeaux. Mais bon, Mazembe ne leur a pas donné l'occasion de s'exprimer dès la première période, puisque l'expérience de Kofi associée à la jeunesse Tiki Tombala a permis à Mazembe de faire le break de la première période et les corbeaux ont su être imperméables derrière. Pour la deuxième fois consécutive, les hommes de Dumas ont rendu la copie du match face à Al-Masri et si Mazembe se retrouve avec une telle performance à domicile, il y a de quoi espérer mieux face à n'importe quel adversaire. Au fil des matchs à élimination directe, si Mazembe montre un visage on ne peut plus conquérant, atteindre les demi-finales de la Coupe de la Confédération reste une grosse performance, mais pas aussi éloquent. Lorsqu'on s'appelle Mazembe, c'est le titre qu'il faut aller décrocher.
Qualification également des Sud-Africains d'Orlando Pirates après leur succès au tir au but 4-3 aux dépens des Tanzaniens de Sivasspor. En demi, le club de Soweto fera face à Ali Tripoli, tombeur d'Al-Ittihad dans le duel libyen. Match aller de cette demi-finale le 8 mai prochain, retour une semaine plus tard. Basketball à présent, avec l'épilogue des phases qualificatives pour les play-offs de la Basketball Africa League. La conférence Nil a rendu aussi ses quatre qualifiés après celle du Sahara. Il s'agit du Zamalek du Caire, du Petro Atletico de Luanda, des Fabs du Cameroun et des Sud-Africains de Cape Town. Valdo, les Congolais d'Espoir Foucage finalement n'y seront pas.
Alors qu'ils avaient nourri beaucoup d'espoir après leur qualification à cette fenêtre, Élisée, les Congolais ont simplement été rattrapés par une mauvaise préparation avant la conférence Nil. Le club de la RDC s'est retrouvé avec beaucoup de faiblesses acquises au niveau local et ils l'ont payé cash avec notamment cette défaite face à Cobra qui a vraiment fait très mal face à Zamalek. Ils ont joué avec l'instinct de survie. Malheureusement, l'expérience des Égyptiens s'est érigée en véritable barrière. Il ne fallait surtout pas sortir bredouille de cette conférence. Les Congolais de Foucache ont quand même pu sauver l'honneur avec cette victoire à l'arraché face aux Sud-Africains des Cape Town. Il termine cette fenêtre avec des regrets malgré les performances des quelques individualités. Il n'y aura donc pas un club de la RDC à Kigali lors de play-off pour la deuxième fois consécutive, quoique Foukache ait fait un parcours à demi-teinte pour un club qui n'a que 2 ans d'existence. Il lui a peut-être manqué assez d'expérience à cette étape d'avant-play-off.
10 jours de compétition qui ont livré de grandes oppositions, même si le niveau n'est pas le même que celui du Sahara, à en croire Amadou Galofal, président de la balle, qui passe en même temps au bilan.
Notre priorité en venant abaisser cette phase de compétition de la conférence NIL, c'était de pouvoir dérouler cet événement. Et nous sommes toujours dans le contexte Covid. Les infrastructures étaient excellentes. Le produit qu'on a vu sur le terrain... C'est vrai qu'au début, on peut dire, comparé à la conférence du Sahara, il y a eu des matchs qui ont été moins équilibrés que ce qu'on a vu à Dakar. Mais aussi, il y a eu vraiment des rencontres très passionnément disputées. Encourager tout le monde à encore redoubler d'efforts parce que nous sommes sur le bon chemin. Le partenariat avec la FIBA qui marche très fort. Et ce qui est excitant, c'est qu'à Kigali, on va avoir vraiment 8 équipes sur des matchs organisés en single elimination. Ça va être vraiment un tournoi chaos avec beaucoup d'enjeux.
Ahmedine, le nouveau format a changé le niveau de la compétition.
Tout à fait, Élisée, car contrairement à la saison inaugurale qui s'est déroulée à Kigali, il n'y avait que 12 équipes qualifiées directement, mais cette année, pour être présent à Kigali pour les playoffs, il faut décrocher d'abord sa qualification à travers les 2 conférences, celle du Sahara qui s'est déroulée à Dakar et celle du Nil qui s'est déroulée au Caire. C'est pourquoi nous avons eu droit à des matchs de très haut niveau, hein, aussi bien qu'à Dakar qu'au Caire, mais il faut reconnaître que les matchs qui ont été joué au Sénégal lors de la conférence Sahara ont été plus serrés que les rencontres disputées dans la capitale égyptienne. Donc c'était un tournoi relevé, mais il faut dire que celle de Dakar a été plus relevée que celle du Nil. Élisée.
Alors Lawal, la conférence Nil et Sahara convergent à Kigali après de beaux duels.
Oui, Élisée, il faut reconnaître que la question de niveau, elle s'est posée, mais ce qui est intéressant, c'est que le basket africain a commencé par prendre de l'allure, par avoir un peu du bon. Voilà. C'est le plus important. Et aujourd'hui, Kigali sera à nouveau la capitale du basket africain. C'est ça le plus intéressant. Et il faut féliciter déjà les clubs qualifiés pour la phase finale et chercher, en fait, voir un peu
à améliorer
les autres et améliorer le niveau de la compétition. Ça ne fera que du bien au basketball africain.
Surtout l'année dernière, il n'y avait pas eu de phase qualificative.
C'est déjà important qu'on soit passé par les phases qualificatives et puis qu'on ait rehaussé un tout petit peu le niveau du basket. Et avec les éditions à venir, on va constater que le niveau va beaucoup plus s'améliorer, Élisée.
Merci Lawal.
Élisée, c'est moi.
On connaît donc les oppositions des play-offs de cette compétition organisée par la NBA. Le Zamalek fera face à Slack de la Guinée. Les Tunisiens de l'US Monastir seront opposés aux Sud-Africains de Cape Town. Rwanda Energy Group affrontera les forces armées et police du Cameroun. Et puis le Petro Atletico de Luanda en découdra avec les Marocains de l'AS Salé. Amine, le chemin qui mène au sacre est lancé. De belles confrontations en perspective.
Avantage certain pour le Zamalek, pour les Tunisiens de Monastir, peut-être pour les Rwandais d'Energie Group, et une confrontation un peu plus indécise entre Petro Atletico et l'AS Salé. Certainement que les Angolais auront le capital expérience, l'ADN du basket et de ses compétitions, mais il ne faut pas oublier que l'AS Salé n'aura rien à perdre. L'équipe viendra certainement avec l'ambition de créer une belle surprise et d'aller le plus loin possible dans une compétition qui lui avait souri la saison dernière puisqu'elle avait déjà atteint les quarts de finale. Je rappelle que l'AS Salé avait déjà gagné la Champions League africaine dans son format précédent en 2017 et qu'elle a certainement la possibilité de retrouver le lustre africain, mais ça passera par un obstacle très dur, l'obstacle de Petro Atletico de l'Angola.
On le rappelle encore, les matchs auront lieu à Kigali au Rwanda du 21 au 28 mai prochain. programme A, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi prochain.